Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, il est 11h, le Festival d'Avignon se réveille, nous sommes bien installés dans la cour de l'université pendant une heure, c'est des idées sous les platanes. Troisième et dernière semaine de nos retrouvailles quotidiennes sous les platanes de la Faculté des Sciences d'Avignon. Pour cette heure que nous passons à converser à l'ombre, ici nous parlons beaucoup de textes, les textes qu'on représente, qu'on dit, qu'on lit, qu'on écrit, qu'on chante, textes qu'on traduit aussi, on parle aussi de corps, d'écriture, de politique ou de littérature. Mais aujourd'hui on parlera beaucoup de musique avec Fawaz Baker qui est musicien, compositeur et ancien directeur du conservatoire d'Alep en Syrie. Bonjour Fawaz Baker.
Bonjour.
Je le disais, vous êtes musicien, vous êtes compositeur, vous avez dirigé le conservatoire d'Alep en Syrie, avant ce que vous appelez, je crois, un exil culturel en France,
oui. Depuis
2 ans maintenant, un peu plus.
À peu près, oui.
Mais vous êtes aussi architecte, on en parlera. Et vous êtes avec nous parce que vous êtes à la fois un des coordinateurs, mais aussi vous avez joué et composé une des pièces, une pièce musicale programmée dans le Festival d'Avignon. C'était Oration, qui était donné dimanche soir dans le cloître des Célestins.
Oui.
Pièce alors, autour de la Méditerranée, pour autant dire.
Oui.
Qui mêlait des traditions musicales espagnoles, andalouses.
Oui.
Arabes.
Arabe, musique classique contemporaine.
Musique classique contemporaine. Donc avec vous, ce matin, on va beaucoup parler de musique. Mais dimanche soir, je m'attendais à vous voir jouer du oud.
Oui.
Et vous n'avez pas joué de oud, vous avez joué de la contrebasse.
Si, je jouais du oud sur la contrebasse.
Vous jouez du oud sur la contrebasse, expliquez-moi ça.
Eh ben, écoutez, moi je trouve que les... Voilà. Je trouve que dans la musique arabe aujourd'hui, en fait, il y a des fréquences qui manquent. Les fréquences basses. Donc la contrebasse, c'est un instrument qui chante bien. Et puis, au point de vue accord, il ressemble au oud, 4 cordes, mais enfin avec un registre qui est beaucoup plus grave. Mmh. Et puis, ça rajoute vraiment quelque chose. Et c'est un instrument qui chante super bien. Et moi, enfin, de toute façon, moi, je ne joue pas sur les instruments, je chante sur les instruments. Donc voilà, la contrebasse me convient très bien.
Et vous avez appris la contrebasse ou est-ce que vous avez juste transféré vos techniques de oud sur la contrebasse?
Oui, j'ai transféré. Et puis, j'ai regardé quelques contrebassistes, en fait, sur YouTube. Et puis j'ai...
Non, vous avez appris à jouer la contrebasse sur YouTube?
Comme beaucoup de monde. Pas seulement la contrebasse, mais bien sûr. Mais on regarde, en fait...
Et personne n'avoue ça, Fawaz Baker, c'est extraordinaire.
Non, il n'y a rien d'extraordinaire, en fait. On met un casque, on baisse les fréquences, on garde que les fréquences basses et on regarde comment les gens jouent. Et puis après, on prend ce qu'on veut et puis on construit en fait notre langage et notre façon de chanter.
Et rassurez-moi, vous n'avez pas appris à jouer du oud sur YouTube non plus?
Ah non.
D'accord.
Non, il n'y avait pas YouTube à l'époque en fait. Par contre, c'est une bonne méthode, oui.
Quand est-ce que vous avez appris, comment c'est venu la musique chez vous?
Eh ben, j'ai appris à jouer, enfin je chante depuis toujours, la musique m'intéresse depuis toujours. Mais j'ai appris à jouer de l'accordéon sur scène à l'âge de 9 ans.
De l'accordéon sur scène?
Oui.
Donc vous avez commencé par l'accordéon?
Bah oui, bon, enfin par plein d'instruments. J'étais toujours attiré par les sons, par le chant, depuis tout petit, quoi.
Je
me rappelle même pas.
Non,
absolument pas.
C'est quoi votre famille?
Père médecin, mère avocate.
À Alep?
À Alep, oui.
D'accord.
Et
mais toujours une attirance pour les sons, pour les instruments,
oui,
depuis le début.
Pour le chant. Après, effectivement, en fait, à l'âge de 13 ans, j'ai perdu ma voix.
Vous avez perdu votre voix?
Enfin, j'ai perdu ma voix.
Ah, vous avez mué, quoi.
Voilà, ouais. J'ai perdu la belle voix avec laquelle je pouvais chanter. Et puis, je l'ai retrouvée, en fait, 20 ans après. Et du coup, j'étais obligé de passer par les instruments de musique, en fait. Par les instruments de musique pendant des années, parce que je n'arrivais pas à chanter comme je voulais. Donc les instruments de musique me permettaient en fait, et comme ça, petit à petit, sans savoir vraiment comment j'ai appris un instrument et l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre.
Et le premier, c'est l'accordéon.
Oh oui, mais ça n'a pas duré. Hein.
D'accord.
Ça n'a pas duré parce que j'étais très vite attiré par le hard rock. Ce qui fait, parce que c'était l'époque.
Alors c'est vrai que l'accordéon dans le hard rock, c'est moyennement utilisé. Bah c'est ça pourrait.
C'est une très bonne idée.
Ah oui, bah voilà. Écoutez.
Ouais, mais enfin, j'ai d'autres chats à fouetter en ce moment, mais que l'accordéon et le hard rock.
C'est bon. En même temps, ça peut être un chemin, quoi.
Moi, je pense que c'est une très bonne idée.
Donc,
parce que justement, personne ne l'a fait. Enfin, alors, personne ne l'a fait. Je pense qu'il y a des gens qui ont essayé de le
peut-être
faire.
Peut-être. Mais attendez, alors, donc accordéon, hard rock. Donc là, vous êtes mis à quoi? À la guitare, à la batterie?
Oui, oui, oui. Ouais. Non, pas batterie.
Guitare.
Plutôt guitare, clavier.
Ok. Et puis, comment vous avez glissé? Et c'était quoi d'ailleurs le chant du hard rock à Alep dans les années quoi?
Ouh là là, on était très peu nombreux. Hein, ouais. C'était dans les années 71, 72. En fait, c'est vieux. Hein, c'était le début. Quoi.
C'était vous en fait, le hard rock à Alep?
Oui, 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 plus ou moins en fait. D'accord. On était une dizaine de personnes. Quoi. Mmh. Et c'était Led Zeppelin, c'était Deep Purple, etc. Et ouais. Puis petit à petit, en fait, par le rock, on commence à voilà, moi j'ai joué pendant des années sans savoir les noms des notes en fait sur lesquelles je tapais. Hein. Et petit à petit, en fait, par le rock on vient au blues, par le blues on vient au jazz. Et à partir du jazz, en fait, on s'ouvre un peu plus et on retrouve nos racines. C'était pour moi, c'était ça. Moi, j'ai redécouvert la musique arabe à Lyon en faisant du jazz.
Alors, attendez, d'abord vous avez quitté Alep pour Lyon, mais
ah oui, bah ça c'était pour mes études d'architecture, c'est-à-dire j'étais déjà architecte à l'âge de 20 ans.
Ah ok, c'est que vous avez en fait vous aviez une pratique amateur de musique, amateur, quasi pro,
oui.
Enfin bon amateur,
ou, enfin,
mais vous meniez des études d'architecte en parallèle.
Oui, ça prenait quand même 80% de mon temps.
D'accord.
Quand même. Hein. Enfin, les limites amateur professionnel, moi j'y crois pas du tout. Hein. Je suis toujours amateur moi. Hein. Enfin dans un sens.
Et pourquoi vous avez fait de l'architecture si vous aviez une pratique quasiment
parce
professionnelle?
Parce qu'il n'y avait pas une école pour faire de la musique.
D'accord.
Parce que c'était Lazare fait bien les choses. Je pense que aujourd'hui, je peux dire que l'architecture m'a beaucoup aidé en musique, parce que finalement, parce que j'ai pratiqué aussi l'architecture après, énormément, j'ai construit beaucoup. Et puis aujourd'hui, en fait, ma musique, elle est nourrie de l'architecture, comme mon architecture qui a été nourrie énormément de la musique. Parce que pour moi, en fait, les méthodes, la manière de faire est le même, c'est la matière première qui change seulement entre les deux. Je m'explique.
Ouais, expliquez-vous.
Je m'explique. C'est-à-dire, en architecture, la matière première, c'est l'espace. Par contre, en musique, la matière première, c'est le temps. Après, la manière de faire, les proportions, les belles proportions, toutes les notions d'échelle, etc., etc., la création, l'imaginaire, le rôle de l'émotion dans tout ça, eh ben, c'est plus ou moins la même chose. Et puis, on croit au départ que la matière première de la musique, elle est moins chère que la matière première... Parce que c'est vrai que l'espace coûte cher, un terrain coûte cher, il faut beaucoup plus d'argent, etc. Mais ce n'est pas vrai du tout, parce que la matière première de l'architecture, c'est vrai qu'elle coûte plus cher, mais elle est stable, elle est là. Pour que la matière première de la musique, qui est le temps, il file entre nos doigts et il faut le capter. Quoi. Et du coup, enfin, finalement, ce qu'on perd le plus dans notre vie, c'est le temps.
Et est-ce que vous pensez que ce que vous avez créé comme bâtiment ressemble à la manière dont vous jouez de la musique?
Plus ou moins, oui. C'est la même. Enfin, d'un point de vue, entre parenthèses, bon, d'abord, je ne peux pas me placer, moi, dans ce que je fais.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, je ne peux pas dire que je fais ça parce que c'est ça. Je ne peux pas dire que je suis, par exemple, voilà, je m'explique. Pour ceux qui me demandent quel type de musique que je fais ou quel type d'architecture je fais, ben si c'est oriental ou occidental, par exemple, ben je leur dis que je fais de la musique orientale pour les Argentins et de la musique occidentale pour les Chinois. Donc,
d'accord.
Voilà. Donc c'est plus compliqué que ça. Mais c'est vrai que ma réflexion, ma manière de faire, c'est-à-dire le fait de passer par l'émotion d'abord pour dégager de l'émotion, etc., y compris en architecture, c'est la même chose. Le fait de traiter... Voilà, entre autres, le fait, par exemple, de mettre l'accent sur le vide, sur l'absence de l'action, sur le silence en musique, sur le vide en architecture, ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un qui compose et qui conçoit sur le négatif et pas sur le positif.
À partir du vide.
À partir du vide. C'est-à-dire, moi, quand je fais de l'architecture, je suis un sculpteur de lumière. Je ne suis pas quelqu'un qui pose les murs.
Ok.
C'est pas l'objet qui compte, c'est le vide qui l'entoure. Et je pense que ce qui fait vraiment énormément la différence entre l'architecture qu'on fait aujourd'hui et l'architecture qu'on faisait jusqu'au 19e siècle, qui était une architecture sans architecte, pour la plupart du temps, en fait, dans le monde, eh ben, c'est que les gens, ils savaient ce qu'ils voulaient, ils construisaient des lieux, en fait, qui sont agréables à vivre. Or qu'aujourd'hui, on fait des objets, on fait des objets sculptés, qui sont dessinés sur des maquettes, avec des hommes politiques et des architectes stars. Et ça, c'est une position qui ne me convient absolument pas. Moi, je fais plutôt à la manière ancienne, quoi. C'est-à-dire, mon savoir, il m'appartient et je ne le fais pas avaler aux autres.
Alors, si on en revient à votre fil biographique, Fawaz Bakr, donc, années 80, vous vous retrouvez à Lyon pour faire de l'architecture et en même temps là,
ouais,
musicalement...
Ben alors je profite en fait pour faire du jazz. En fait, il y avait à l'époque une école qui s'appelle l'IMRA qui était à pas mal côté. Je faisais de la guitare et j'ai fait du jazz en fait à l'époque. Pourquoi ? Pour apprendre tant qu'à faire, les gammes et tout ça. Et puis, je me suis rendu compte, ou même les autres, en fait, les musiciens autour de moi et mon prof de guitare. Un jour, j'avais un oud comme ça, je jouais parce que je jouais du oud, mais comme ça. Il m'a dit, mais enfin, si tu arrives à faire... Parce qu'il y a les microtonalités, en fait, c'est pas de la gamme tempérée. Nous avons énormément de notes dans un oud ou dans la musique orientale. En fait, il y a beaucoup plus que 12 notes dans une octave.
Ouais, ça, on
parlera.
Reviendra,
oui. Voilà, donc l'expression passe aussi par les fausses notes, quoi. Nous ne sommes pas les seuls à le faire. Hein. Les Bretons, ils le font très bien. Ils savent très, très bien chanter avec des fausses notes, les Bretons, ici, hein, encore. Mais bon... Et donc, du coup, petit à petit, en fait, la réflexion, etc. Et puis, c'est vrai que le fait d'être en Occident, en fait, l'Occident a perdu beaucoup de son charme, en fait, où j'étais en Orient. Donc, du coup, j'étais blasé un peu. Et puis, j'ai commencé à faire le mouvement inverse, ce qui est normal pour un équilibre. Et voilà, je me suis remis et je me suis retrouvé réellement, c'est-à-dire à reparler ma langue d'origine, ma langue maternelle, quoi. Et depuis, je fais que ça. Tout en étant nourri, en fait, avec mon passé du rock, mon passé du jazz, etc. Hein,
mais... Et quand est-ce que vous êtes retourné à Alep pour, par exemple, diriger le conservatoire d'Alep ?
C'est beaucoup plus tard, hein, parce que je suis retourné. En fait, je suis resté en France à peu près une dizaine d'années, un peu moins, entre le Caire, la France, Lyon, Paris, en faisant que de l'architecture, pratiquement, en fait, pour une carrière d'architecte et de chercheur, en fait, en histoire d'architecture. Et après, je suis retourné au début des années 90 pour enseigner. Et c'est là où je me suis consacré réellement quoi, à la musique un peu plus. Parce que nous avons plus le temps, nous. C'est-à-dire, il n'y a pas une carrière. La plupart des musiciens, jusqu'aux années 2000, en fait, avaient un autre métier, quoi. C'est un compositeur, il vit pas de sa composition chez nous. De toute façon, il n'y a pas ce statut. Donc, on était soit couturier, soit architecte, soit...
Il y a très peu de musiciens professionnels.
Si, mais les musiciens professionnels, c'est ceux qui font des mariages, c'est
ceux qui sont.
Et ça vole pas haut, hein. Je suis désolé, mais c'est-à-dire ils font ça en métier, mais en métier quoi. C'est-à-dire ils sont payés pour répéter.
Oui, c'est la pratique de la musique
populaire, etc. Okay. Par contre, la musique en tant que musique, création, etc. Le haut niveau même instrumental, etc. Il est plutôt amateur, oui, effectivement.
Oui. Et le conservatoire de Alep, qu'est-ce qu'on y enseignait ça ressemblait à quoi?
Ça ressemble à notre monde.
Ça ressemble, ouais.
Alors, ça ressemble. C'est-à-dire, il y avait deux branches essentielles qui se chamaillaient tout le temps, d'ailleurs. C'est la musique classique européenne et la musique orientale.
Pourquoi ça se chamaillait ?
Ah bah, c'est parce que la première, elle traite les autres de musique du monde, et l'autre, elle traite du monde...
Musique coloniale ?
Oui, de musique coloniale. Donc, c'est normal, et j'étais en plein dedans. Et moi, je trouve que j'ai réussi ma mission dans le sens où j'étais fâché avec tout le monde en partant. Parce que, j'ai rempli ma mission. Parce qu'en rentrant, les premières disent que celui-là, de toute façon, il connaît trop l'harmonie, et l'autre, il va nous imposer le contrepoint. Et les autres, ils disent, mais il est complètement... Il fait de la musique religieuse, oulalalalala, c'est à l'ancienne, etc. Mais donc, ça, c'est les bonnes positions à prendre. Hein. C'est d'être constamment, en fait, dans un point critique où on est en conflit avec tout ce qui nous entoure. Parce que hier, on disait, en fait, on parlait de dissonance. On ne peut pas avancer sans dissonance. L'harmonie, c'est bien. C'est-à-dire, il faut toujours essayer de domestiquer une situation qui est... Il faut toujours se mettre dans une position inconfortable pour avancer. On ne peut pas avancer dans une position confortable.
C'est-à-dire, vous croyez que ce conservatoire d'Alep, par exemple, mais j'imagine que c'est le cas d'autres conservatoires dans cette région, qui sont tiraillés entre deux traditions musicales, vous dites que c'est catastrophique, et en même temps, vous dites que c'est de cette dissonance qu'on peut faire quelque chose.
Bien sûr, mais comme ici, je veux dire, c'est tout le débat en fait autour du musique du monde ici, tout le débat en fait entre ce qu'on fait de la musique, tout le débat entre l'écriture et l'oralité, c'est tout ça, de toute façon, c'est des positions. Si on est complètement dans l'oralité, on a tort. Si on est complètement dans l'écriture, on a tort.
Mais par exemple, question de curiosité pure, Fawaz Bakker, mais quel type d'étudiant vous aviez dans ce conservatoire et comment ça se répartissait?
Je vais être ironique et je vais
Allez-y, c'est pas grave.
C'est pas grave, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors bon, le conservatoire, c'était un grand conservatoire quand même, qui était du domaine public, c'est-à-dire il appartenait à l'État. On avait quelque chose comme 700 élèves, 60 profs. Donc, la branche de musique classique, il y avait quand même 70% du piano. On m'a proposé le poste en fait pendant des années que j'ai refusé parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de quoi faire dans un conservatoire où il y a 70% en fait des élèves du piano, ce sont des filles qui veulent se marier en fait, et ça fait bien quoi de jouer un peu de Beethoven en fait quand on a un piano à la maison quoi.
D'accord.
Et moi, c'était pas du tout ma conception. De l'autre côté, la musique orientale, c'est une catastrophe. En fait, l'enseignement de la musique orientale dans tous les conservatoires du monde arabe, c'est une vraie catastrophe.
Parce que c'est quoi ?
On traîne une théorie qui a été imposée dans les années 40 par le premier congrès du Caire, c'est-à-dire un tempérament. Bon, je vais rentrer un peu dans les détails très important. C'est-à-dire, nous, on fait de la microtonalité, en fait, dans notre manière de faire de la musique, on chante. C'est-à-dire, les notes, par principe, elles bougent. Elles ne sont pas stables. Ouais. On ne peut pas faire un genre musical, en fait, dans la musique indienne, arabe, turque, etc. Toutes ces musiques-là, c'est des musiques modales. Donc, on ne peut pas, il n'y a pas de notes stables. Et à un moment donné, théoriquement, par une idée, c'est pas seulement à cause des... C'est pas une pensée coloniale. Le pire, c'est qu'on les colonisait en fait et commence à adopter en fait les idées des. Ouais. Voilà, nous sommes tous responsables, je veux dire. Il y a pas. Je ne suis pas en train
de. Vous repartez pas la faute sur ceux qui ont organisé ce congrès.
Je m'en fous de la faute. Je m'en fous de la faute. Je ne suis pas juge. Et je le serai jamais. Par contre, il y a eu dans notre histoire là cette imposition d'une gamme tempérée à 24, d'où à 24 notes, c'est-à-dire d'où le nom. Détestable de quart de ton, or qu'il n'y a pas de quart de ton, il y a 56, 58 notes au moins en fait dans une octave. Par contre, la musique qu'on a enseignée, cette idée de 24 de tempérament égal à 24 notes, ça a été imposé politiquement en Égypte par le Khedive, etc. Et à l'aide de beaucoup de monde comme le baron d'Erlanger, etc. Il y avait des arts.
C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'appropriation d'une idée fausse, caricaturale et folklorique. Exactement. De la musique orientale. C'est-à-dire que d'un côté, vous aviez donc, des 70% de jeunes filles qui apprenaient vaguement Beethoven pour se marier sur les pianos, et de l'autre côté, vous aviez des gens qui pratiquaient une sorte d'idée folklorique de la musique orientale. C'est
parfait. Ça. Qu'est-ce que vous parlez bien.
Oui. Non, je parle pas bien. J'essaie de résumer. C'est des choses que je ne maîtrise pas totalement, voyez-vous.
Non, mais c'est parfait. Je simplifie. C'est parfait. J'ai rien à dire. Tout à fait.
Bon, et donc vous êtes arrivé. Qu'est-ce que vous avez mis comme
alors j'essayais de libérer de part et d'autre, de leur dire de toute façon la musique classique, elle s'est pas arrêtée à Beethoven en fait. Ouais. Et il y a eu autre chose. Il y a eu au moins Stravinsky après.
Boulez.
Boulez, non.
Vous n'êtes pas arrivé juste.
Oh non. Bon, Boulez, j'aimerais bien. Mais.
Est-ce que vous avez réussi un peu ? Vous avez réussi un peu ?
Ah oui, on réussit toujours. Avec la bonne volonté, on réussit toujours. Mais réussir, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai réussi à faire bouger les choses. J'ai réussi à créer un débat. J'ai réussi à énerver beaucoup de monde. Donc les choses, ils ont avancé comme ça. Mais enfin, la guerre nous a rattrapés.
C'est ça. Vous en êtes parti. C'est la guerre qui vous a poussé en dehors du conservatoire
d'Alep. Plus ou moins. C'est les mêmes raisons en fait qu'ils ont fait la guerre qui m'ont fait partir. Donc je suis parti un peu avant.
Un peu avant ? Quelques années ?
Non, une année avant.
Une année avant. Bon. Fawaz Bakker, on va continuer notre discussion. Chaque jour, Véronique Lamandour, qui prépare cette émission, plonge dans les bases de données différentes dans lesquelles il y a des sons, des musiques, etc. Et on tape un mot comme ça et on voit ce qui sort. Et aujourd'hui, Véronique Lamandour a tapé Alep dans ce qu'on appelle la DNC, c'est la discothèque numérique centrale de Radio France. Et voilà ce qui est sorti. Thank you. Fawaz Baker, c'est un groupe qui s'appelle Désoriental. Donc j'imagine jeu de mots sur oriental, désorientation. C'est un groupe français. Et pourquoi, enfin, je suis incapable de voir pourquoi est-ce que cette musique peut évoquer Alep d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'il y a comme écho, ou est-ce que vous en voyez ou pas du tout?
Vous voulez une réponse technique ou une réponse
Les deux, je sais pas. Comme
celle dont vous avez envie. D'abord le morceau, c'est la première fois que j'entends le morceau. Hein. Et le morceau, il est sur 10 temps. Donc c'est un rythme qui s'appelle Samaï. Tac dom, tac dom dom tac. Et donc le cycle rythmique déjà, il est de 10. C'est vrai qu'on le joue beaucoup, nous.
Quand je dis nous, c'est
Les Alépins. D'accord. Les Alépins, c'est des. Ils sont entre deux mondes, le monde arabe et le monde turc, à peu près. Parce que c'était la troisième ville de l'Empire. Donc voilà. Et ça n'a jamais été une ville sainte, ni une capitale. Donc plutôt commerce.
Ouais.
Plutôt cuisine, commerce.
Et pourtant, une des plus anciennes villes habitées du monde, continuellement.
Ouais. Nous avons tout ça. Hein. Moi, de toute façon, je ne suis pas prêt à abandonner ma partie syriaque de l'affaire. Mon arabité, mes turquoiseries, ils sont compatibles parfaitement avec tout le côté syriaque et arméen qu'il y a dans tout ça. C'est-à-dire, il y a tout ça, même dans notre musique. Dans la mosquée aujourd'hui, on chante en arabe, mais on chante en arabe et on évoque un dieu de l'islam. Mais les mélodies, ils ont changé 6 fois de langue, 6 fois de religion, hein, mais ils sont toujours là, les mélodies. Une mélodie, c'est quelque chose qui persiste énormément, énormément. Quand elle n'est pas écrite, quand elle est orale, elle persiste vraiment. Elle dure très très longtemps. Dès qu'on l'écrit, on la met dans un musée et
elle est enterrée. On reviendra sur la question d'écriture.
Donc on était où pour le... Il y a les 10 temps. Ouais. Il y a aussi la gamme Hijaz en fait, qui évoque l'Orient, qui évoque un peu cette idée de hollywoodienne en fait de l'Orient, et parce que aussi soi-disant c'est quelque chose qu'on arrive à jouer sur une gamme tempérée, sur un piano, etc. Et le mélange des deux, c'est normal en fait. D'accord. Alors après en fait c'est un mélange de deux recettes, ce que j'ai entendu, et souvent les deux recettes c'est bien, mais une recette c'est pas bien.
D'accord. C'était quoi les circonstances du départ, de votre départ de Alep?
Je suis tout simplement parti en fait pour 15 jours soi-disant. Parce que j'ai vécu dans la guerre. Hein. Et je suis parti, en fait, ici, pour le projet Aleph Ba, qui fait partie du cycle des 5 chants, pour 15 jours, en fait, au Caire, pour aller choisir des musiciens au Caire, pour décider avec Fabrizio Cassol, en fait, du projet. Et avant de retourner... Dès que je suis parti, l'aéroport a été bombardé, en fait. Et les lignes étaient coupées, en fait, pour retourner à Alep. Et j'étais coincé à Paris. Pendant 15 jours, 3 semaines, et au bout de 3 semaines, en fait, il fallait décider en fait de quoi. Et j'ai vu que à Paris, en fait, j'avais plus de possibilités de continuer à faire de la musique, parce que là-bas, en fait, les instruments de musique, ils sont devenus trop gros pour moi.
C'est-à-dire
Les obus, les tanks, les chars. Je sais pas faire de la musique avec ça, moi.
Pourquoi vous en parlez? Enfin, comment vous faites pour en parler en souriant? Enfin, vous avez vécu quoi, 1 an et demi quasiment, deux ans presque sous la guerre.
Mais
comment
guerre...
vous pouvez parler comme ça et faire des blagues en disant je vous accuse pas,
trouve que les Occidentaux ils font pas assez de blagues à propos de la crise. Là, par exemple, la crise,
la crise
ironique.
C'est pas si grave que la guerre.
Il y a rien de grave. La mort existe. La guerre, c'est un phénomène naturel. C'est un phénomène douloureux, mais enfin. Allez voir à Alep aujourd'hui. Les gens, ils arrivent à vivre. Hein. Moi, j'ai vécu en fait un an et demi dans la guerre, et puis c'est vivable. Hein.
Nous, on ne connaît pas ça. Comment on vit dans la guerre? D'abord, comment ça s'installe, la guerre?
D'abord, il y a la peur. Ouais. La peur, ça dure 15 jours. Après, la peur de mourir, ça dure 15 jours. Parce que figurez-vous que quand on traverse la rue ici avec toutes les voitures, au bout de 15 jours, en fait, on n'a plus peur. Et donc, du coup, on arrive à traverser d'un trottoir à l'autre. Et comme ça, la peur, elle disparaît parce que la vie, elle est plus forte. Après, c'est vrai qu'il y a des points très positifs dans la guerre. Les gens, ils sont solidaires. Les conditions de vie, ils sont très, très dures. Donc, du coup, on arrive à vivre avec le minimum. Et puis, on se maintient à l'essentiel. Et puis, dans la guerre, il n'y a plus de carrière. Il y a beaucoup de temps. Voilà, tout manque. Hein. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger, etc., etc. Donc, les gens, ils sont solidaires. Ils arrivent à se débrouiller. En fait, ceux qui se battent, en fait, ça dépasse jamais les 3%, or que tous les autres, ils subissent, quoi. et le danger de la mort. De toute façon, moi, je pense à un truc. Plus que nous sommes près de la mort, plus que nous sommes heureux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on cherche toujours la sécurité, on cherche toujours d'éloigner la mort et de la mettre dans une case, en fait, où on ne la voit pas. On n'est pas heureux comme ça. C'est-à-dire le fait d'être confronté à la mort tout le temps, le fait de ne pas opter que pour la sécurité, d'opter aussi pour la liberté, et d'accepter le fait que nous sommes... qu'on peut mourir à n'importe quel moment.
Ouais, enfin, c'est quand même compliqué de construire, je sais pas, une famille, d'avoir des projets, même musicaux, etc. Avec l'idée que vous pouvez sortir et que vous pouvez vous prendre une balle parce qu'il y a un sniper installé en face.
Enfin, c'est quand même, mais tout à fait. Alors voilà, moi c'est pour ne pas avancer trop dans cette idée-là. Pour faire de la musique, c'est très bien. Parce que dans la guerre, il y a la gratuité qui s'installe. On ne fait pas de la musique pour faire un disque. On ne fait plus la musique pour faire une carrière. On ne fait la musique pour faire de la musique, pour passer le temps. Et ça, c'est vraiment la meilleure façon de faire de la musique. Alors, par contre, avoir des enfants dans la guerre et s'inquiéter pour eux, en fait, dès qu'ils sortent, etc. Moi, j'ai eu de la chance de ma vie, de toute façon, que mes enfants, ils sont à Lyon. Et or que les gens qui ont des enfants là-bas, c'est vraiment très, très dur.
Ah, vous étiez sans enfants là-bas ?
Ah oui.
Oui, d'accord. Okay.
Donc, quand on est responsable que de soi, enfin, je veux dire, j'ai eu un peu de mal, en fait, à sortir mes parents après. Vers la Turquie, mais c'est vrai qu'après, si on est responsable de soi, la guerre, elle est vivable. Hein. Elle est vivable, bon, elle est plus dure pour les gens qui ne l'ont pas vécu, mais c'est vrai qu'elle est vivable et il y a des points positifs. Voilà.
Mais comment, à quelle place la musique dans la guerre ? Vous disiez, bon, on en fait de la musique pour passer le temps, mais c'est-à-dire qu'elle se fait comment ? Comment vous retrouvez des gens ? Comment vous organisez ? Comment se recréer les groupes ?
Je prenais ma voiture, au lieu de faire des répétitions jusqu'à 2h du matin, on faisait des répétitions jusqu'à 5h de l'après-midi. Donc on était obligé, en fait, de commencer un peu plus tôt. Et dès qu'on enregistre un truc, si jamais il y a un obus ou quelque chose qui tombe à côté, il fallait recommencer. C'est tout. Après,
c'est tout. Voilà, un obus tombe, c'est bon, on reprend.
Non, mais je vous assure que c'est comme ça. C'est pas du tout une position artificielle, ce que je dis.
Non, mais je dis pas que c'est une position artificielle. C'est étonnant à entendre.
C'est bizarre. Bien sûr, parce que c'est bizarre à dire. En fait, pendant une semaine, trois semaines, quatre semaines, et après, la vie continue. Elle est forte, la vie. Hein. Elle est très, très forte. Elle s'impose. Bon, et voilà. Après, ici, c'est vrai que ça me semble tellement loin, tout ça.
Mais la question, c'est aussi même, comment est-ce qu'on continue à faire de la musique alors que, par ailleurs, il y a des questions même d'engagement. C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas envie, à un moment, de lâcher vos instruments et puis de prendre une arme d'un côté ou de l'autre, selon là où vous êtes ?
Je fais la musique comme un engagement.
Et ça a quelle fonction, alors, politique, de faire de la musique ?
Bon, parlons de ça. Alors, moi, je pense d'abord que le monde arabe est devenu malade justement parce qu'il a brûlé tous ses laboratoires d'alternatives politiques, culturelles, etc. Les laboratoires culturels, ce sont tout ce qui concerne la pensée et l'art. C'est-à-dire, ça coûte beaucoup moins cher, en fait, de laisser un peu plus de liberté à des créateurs ou à des penseurs, parce que comme ça, ils peuvent créer et proposer à la société des alternatives en fait culturelles et hadari, c'est quoi le mot ?
Je peux pas vous aider.
Peu importe, oui, merci. De toute façon, c'est pas très important. Donc d'alternatives de société, d'avenir, si vous voulez. Et nous, en éliminant tout le côté artistique, si vous voulez, parce qu'il y avait vraiment pas, personne n'avait intérêt en fait à faire des essais dans la musique arabe, à se poser des questions, surtout dans les dernières années, quoi. Parce que notre plus grand malheur à nous, les Syriens, les Égyptiens, les Irakiens surtout, c'est qu'il y a eu le pétrole sous nos pieds, quoi. Et le pétrole a brûlé tout ce qui est les quatre siècles en fait de civilisation, ça a été brûlé.
C'est-à-dire que toute l'énergie s'est portée sur l'exploitation du pétrole et plus sur l'agriculture.
Voilà, nous sommes quoi ? Nous sommes des gens qui dérangent et qui vivent sur de l'argent. Or que nous, on n'a pas d'intérêt. Malheureusement, en fait, dans tous les pays de Golfe, je suis désolé de le dire, hein, je veux dire, tout l'argent du Golfe, en fait, n'a pas pu produire un seul poète ou un seul musicien, écrivain ou compositeur. Je veux dire, ils sont dans la compétition. Quand on sait pas faire de la bonne cuisine, parce que c'est le mot, quelque chose qui a du goût, c'est très difficile à juger, on fait le plat le plus gros. Et on fait le kebab le plus long du monde quand on sait pas faire Donc tout ça, c'est dans une compétition de la tour la plus haute, etc., etc. Mais c'est vide, c'est complètement, c'est de l'argent qui tombe dans l'argent, etc. Et nous, on était les premières victimes. C'est-à-dire, il y a une vraie haine par rapport à tout ce que nous représentons, surtout notre diversité. Parce que moi, je suis chrétien, je suis musulman, juif, chrétien, athée à la fois et tout. Et tout ça, c'était vécu en Syrie, mais sans problème. Je veux dire, les gens autour de moi acceptaient le fait que je bois, que etc. Et que je suis l'un et l'autre à la fois. Et maintenant, il y a les pensées, les autres pensées, qu'elles soient modernistes ou qu'elles soient du passé, qui s'imposent. C'est des recettes qui ont de l'argent et qui s'imposent, mais vraiment, et qui n'acceptent absolument pas.
Mais donc, Fawaz Bakr, la fonction politique, donc, du fait de continuer à faire de la musique,
mais c'est un engagement.
C'est dire qu'il y a autre chose que cette alternative-là.
Mais bien sûr, mais tous nos projets, en fait, les cinq chants, ce sont des alternatives en fait, de société arabe. C'est-à-dire, quel rapport nous avons vis-à-vis de l'autre ? Est-ce qu'on rejette l'Occident ou on l'accepte ? Finalement, dans la musique, on peut dire la chose et son contraire, ce qu'on ne peut pas dire dans un discours. C'est-à-dire, une musique nous demande d'être profond et simple à la fois. Ce sont des choses qui sont très, très difficiles à faire avec les idées, ou surtout à pratiquer. Par contre, en matière d'art, on peut coller des contradictions en fait, qui peuvent avancer les choses. De toute façon, l'art, en fait, il a comme fonction en fait, de reposer, d'affiner les questions, et surtout pas d'apporter des réponses. C'est d'affiner.
Mais du coup, c'est comment est-ce que sont regardés les musiciens, les artistes en général, mais les musiciens plus particulièrement, par les belligérants, les camps ? Parce que Alep, c'est une ville encore aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est une ville dont on suit assez peu l'actualité en Occident ces derniers jours, mais qui revient ces derniers jours par Gaza. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup, très souvent, les Gazaouis dire on se transforme en Alep, etc. Ouais, ce que je veux dire par là, c'est quelle est la fonction ? Est-ce qu'on vous demande de vous positionner ?
Oui, souvent. Moi, j'étais en train d'expliquer ma position. Par contre, est-ce que je prends parti pour une partie ou l'autre ? Oui, je suis contre la violence. C'est tout. Après, je trouve que tout ça, c'est tellement hypocrite. C'est tellement hypocrite, de toute façon, les médias et tout ça. En fait, la mort s'est installée à Alep depuis 2 ans. Et de toute façon, on ne dit plus rien parce que c'est stable. C'est 100 morts par jour. Donc, si ça ne devient pas 150 ou 50, on va rien dire, comme si rien n'était. Mais les gens continuent à mourir. Moi, j'appelle Alep tous les jours. Et je sais que les gens, ils continuent à avoir soif parce qu'il n'y a pas d'eau depuis je ne sais pas combien de mois. Et il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de communication. C'est très difficile. Les gens, ils sont encerclés. Il y a des snipers partout. Et les gens continuent de mourir de part et d'autre, d'ailleurs. Voilà. Après avoir une position par rapport à tout ça, je dénonce tout ça, effectivement. Surtout l'hypocrisie, en fait, dans tout ça. Le fait de parler, en fait, à partir de Gaza, mais c'est... Ce qui me concerne, c'est Alep d'abord, moi.
Et aujourd'hui, Alep, ça ressemble à quoi ? Et puis, je vous pose la question aussi en tant que personne qui, vous êtes architecte, vous avez un regard aussi sur la forme d'une ville, comme disait.
C'est surtout l'image de mes, chantiers qui sont bombardés, des chantiers bombardés. Mes derniers projets, en fait, j'ai abandonné le projet parce qu'il a été bombardé. Donc, avant d'être habité, voilà. Et heureusement que j'ai pu accéder à la France. Parce qu'en attendant, c'est vrai que tous mes projets ils sont toujours syriens dans ma tête, toujours Alepin dans ma tête, mais enfin, ici, au moins, on fait de la musique, et on continue à le faire. Et on continue à construire quelque chose pour Alep et pour les autres aussi. Parce que je suis concerné par le public d'ici aussi.
Bien sûr.
Voilà, je suis sensible à tout ce qui m'entoure, à tout ce que je vis. D'ailleurs, je suis en train de changer, c'est normal. C'est bien, je veux dire, je ne juge pas.
Est-ce que la guerre, ou même parfois, j'imagine comme c'est aussi une expérience presque sonore, enfin aussi, la guerre, ça fait du bruit, enfin, les gens le disent, les drones, tout ça, ça a des bruits, la guerre, enfin, des balles, etc. Est-ce que ça change la manière de faire de la musique ? Est-ce que ça influence
la
musique ?
Pour moi, pas consciemment. Inconsciemment, sûrement. Et c'est ce qui compte, d'ailleurs, le plus. Inconsciemment, sûrement. Enfin, apprécier le silence, par exemple. Ouh là là ! Quand il y a des coupures d'électricité, il y a des choses qui sont très gênantes, mais ils sont très durs à vivre. C'est-à-dire, dès qu'il y a une coupure d'électricité, il y a tous les moteurs qui se mettent tout autour. Et il faut pouvoir vivre quand même sans électricité, avec tous les bruits des générateurs.
Ah oui, des générateurs qui font un bruit absolument incroyable.
Alors, après, le silence, il devient vraiment très précieux. Enfin, le résultat de ça, par exemple, pour moi, c'est que moi, dès qu'il y a de la musique d'ambiance ici, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. J'apprécie le silence. Le silence a pris... Et c'est quelque chose qui était très utile pour moi.
On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur la question du vide et du silence.
Oui. Mais dans notre monde actuel, partout, ce qui manque, c'est le négatif aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qui manque, c'est le temps à perdre, mais réellement à perdre. Pas à écouter la radio pour passer le temps. Pas à aller en vacances quelque part ou regarder la télé. Je veux dire, ça, c'est pas un temps à perdre. Le temps de s'ennuyer. Il n'y a personne qui s'ennuie aujourd'hui. Et si on ne s'ennuie pas, on n'a pas d'imaginaire. On ne peut pas créer des alternatives s'il n'y a pas d'ennui. Or que le temps, personne n'a le temps. Parce qu'ils veulent partir en vacances, donc nous n'avons pas le temps. Ouais. Vous comprenez ?
Mais ça, par exemple, vous disiez tout à l'heure, en temps de guerre, il y a beaucoup de moments de profonds ennuis.
Oui, de temps. Nous avons le temps, justement, parce que le temps devient très quotidien, devient très... L'instant reprend. On ne vit plus pour demain. Donc, dès que demain... Parce que demain, de toute façon, on est des projets de cadavres. Donc, du coup, si l'avenir, en fait, n'a plus ce sens-là, le passé non plus, ils le perdent. Et le moment devient beaucoup plus intense. Beaucoup plus... Et le moment, quand il devient intense et quand on arrive à l'apprécier, on devient forcément heureux. Forcément.
Pour juste répondre à la question, ça ressemble à quoi Alep aujourd'hui enfin, en tout cas,
je ne sais pas précisément. Enfin, je crains le moment où je vais redécouvrir tout ça.
C'était une ville qui était classée au patrimoine de l'UNESCO, plus anciennes villes avec des bâtiments historiques.
C'est une ville qui était très intéressante pour le monde. Mais moi, j'avais un énorme plaisir à faire visiter ma ville à des gens qui ne la connaissent pas, mais surtout pas en tant que touriste. Parce que c'était une ville vivante. Les 13 kilomètres de souk à Alep, ce n'était pas des touristes. Il y avait quelques touristes, mais c'était surtout les paysans autour, c'était surtout des Turcs qui venaient, des Persans qui venaient, etc. Donc c'est une ville à l'ancienne. L'histoire d'Alep était continué tout simplement, n'a pas subi cette coupure en fait des années de la modernité. Nous avons réussi en fait à s'échapper de la modernité, et la modernité nous a jamais pardonné ça. Toutes les modernités, je parle pas seulement de l'Occident, parce que la modernité aujourd'hui, c'est une notion mondiale.
À Fawaz Bakr, chaque jour, Véronique Lamadour, qui réalise cette émission, construit, fait un petit montage sonore à partir d'images sonores qui lui viennent à l'évocation de l'invité. Voici aujourd'hui pour vous, Fawaz Bakr. Voilà, Fawaz Bakr. Alors, c'est un extrait d'un album, alors mixé avec des ambiances qui ont été enregistrées près des Sawira au Maroc. Mais c'est l'extrait d'un album de Anwar Brahim, qui est un joueur de oud tunisien. Le titre du morceau est assez étrange parce qu'il rassemble deux de vos passions. Il s'intitule Lumière du silence. Voilà. Oui, votre passion bien. Architecturale et votre passion.
C'est très bien.
C'est un grand joueur de oud. Anwar Brahim.
Oui, mais en matière de musique, j'aime pas trop les adjectifs qui sont. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui pour moi, qui a réussi un pari qui est bon.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire, c'est très difficile. Hein. Qui a réussi à être contemporain et modal, contemporain, modal, tunisien et autre à la fois. Donc c'est parmi toutes ces expériences à partir des années 80 de Oud, etc., je trouve que c'est Anwar Brahim, c'est parmi les gens qui ont réussi le mieux à garder l'émotion et à ne pas nous faire avaler un livre de recettes, quoi. Et à pouvoir faire vraiment de la musique, finalement. Il me touche, quoi. Donc c'est, quand il me touche, j'ai pas envie de le juger.
C'est quoi les dangers qui pèsent sur la musique arabe, sur le oud en particulier, par exemple? C'est quoi?
C'est un terrain miné.
Et pourquoi c'est un terrain miné? Faut nous expliquer ça, parce que moi, ça m'apparaît pas comme une évidence quand vous dites quelque chose comme ça.
Bah parce que le oud, parce que... Bon, bah, il faut d'abord dire que le oud, c'est pas un instrument sur lequel on joue. C'est un instrument sur lequel on chante.
Oui, vous l'avez dit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Bah, ça veut dire que... Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de savoir exactement ce qu'on fait quand on joue. C'est-à-dire, on peut... Les chanteurs... Mais moi, j'ai eu souvent affaire dans des masterclass, dans des... Il y a toujours les chanteurs et les musiciens. Les musiciens, c'est ceux qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Et les chanteurs, c'est les gens qui arrivent à se débrouiller, en fait, sans savoir exactement où mettre les pieds. Et moi, ma position à moi, j'aimerais bien toujours donner un peu plus d'assurance aux chanteurs par le savoir... et donner un peu plus d'émotion aux musiciens par l'ignorance, justement. Parce que nous avons besoin des deux. Nous avons besoin de l'ignorance comme nous avons besoin de savoir. Et le oud, c'était un bon équilibre parce que c'est un instrument théorique très important. C'est un instrument de composition depuis le deuxième, troisième siècle. Et en même temps, c'est l'instrument de théorie, mais c'est un instrument qui arrive à chanter. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de savoir ce qu'on fait, en fait, sur un oud pour chanter. N'importe qui, il peut commencer. Et c'est un instrument qui prend le caractère, en fait, du musicien. C'est un instrument qui est très caméléon.
Ah ouais,
comme un bon instrument, quoi. Comme tout, à l'inverse de quoi? D'une harpe.
Oui, c'est ça. À l'harpe, ça, c'est moins
ou
plastique.
Ou le canoun.
Ouais.
Ah oui, parce que c'est des instruments où ils sont rigides, quoi.
D'accord.
C'est très difficile de jouer le piano, quoi, par rapport à un oud, parce que le oud, en fait, l'émotion, elle est là, nous l'avons sur, ou par rapport à un violoncelle.
Et ça tient à quoi? Pourquoi il est plus plastique? Est-ce que ça tient à sa forme?
Non, plein de choses. Ouais. Il y a la forme, la position sur le ventre, effectivement, comme le violoncelle, il ressemble au violoncelle de ce côté-là. Ils ont tous les deux le même spectre. Et puis le violoncelle, en fait, il se met entre les jambes, etc. Et puis.
Et vous croyez que la position, c'est-à-dire le fait d'être sur le ventre, entre les jambes, etc., ça joue beaucoup sur la plasticité d'un instrument?
Alors, bien sûr.
Ah, mais ne m'engueulez pas, moi, je ne sais pas.
Non,
moi.
Non, mais bien sûr. Non. Ah, bah voilà. Il ne faut pas que. Oui, j'ai l'air de dire. J'ai l'air de.
Vous faites un peu votre directeur de conservatoire, oui, il y a des moments. Hein.
Absolument pas, je suis désolé, mais enfin, c'est une manière de parler. Hein. Je ne suis pas aussi arrêté que ça. Et dans tout ce que je dis, de toute façon, je crois dans le contraire.
Non, mais je plaisante. Voilà. Allez-y.
Alors, le oud, revenons au oud. Donc, et pour moi, c'était un instrument qui m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a permis de comprendre beaucoup de choses et il m'a permis d'exprimer beaucoup de choses à la fois. Donc, c'est un instrument qui a été récupéré dans les années 80-90, en fait, d'abord par l'école de Sherif Mahaddine, en fait, de Bagdad, et par Mounir Bachir, etc. Et à partir de là, pour la première fois de son histoire, ça devient un instrument de musique qui doit jouer, quoi. Donc, on a commencé à chercher les intervalles, l'emplacement de doigté, etc. Il y a tout le savoir, en fait, raisonnable et cartésien qui a commencé à fouiller là-dedans, mais à fouiller sans respect. C'est ce qu'il a fait pour tout. Hein, ouais, je veux dire. Il n'y a pas que le oud qui a subi ça. Hein. Enfin, encore pour revenir, la musique bretonne, elle a subi autant que la musique orientale, autant que... Et l'architecture, alors, du 19e d'avant, avec tous les projets haussmanniens, etc. Je veux dire, il y a... On essaye de trouver, à la manière du 19e siècle, en fait, à caser le monde dans quelques pages, quoi. Donc la musique arabe, c'était quoi? C'était une quinzaine de pages. Et ça continuait jusqu'aux années 80-90, en fait, ce mouvement-là. Et c'est vrai que le oud a résisté, parce qu'il a été réadapté par plein d'Européens, justement, parce que l'émotion n'appartient à personne. Ouais. Et puis, il y a eu énormément d'essais. Et puis, il continue. C'est un instrument polémique, ouais. Oui.
Fawaz Bakker, vous avez dit tout à l'heure quelque chose sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne. Vous avez dit que le risque était aussi de l'écriture de la musique.
Ah oui, bien sûr. Alors toute l'histoire de l'oralité, en fait, et de la musique écrite. Alors d'abord, je voudrais quand même préciser quelques quelques lignes concernant ça. C'est-à-dire, pour nous, ici, quand on parle d'oralité, on parle de musique populaire. Mmh. Or que c'est absolument faux. C'est-à-dire, notre musique, elle est savante et elle est orale aussi. Pourquoi elle est orale ? Parce que c'est vrai que quand on écrit la musique, dans les meilleurs des cas, on n'écrit pas plus que 20% de la musique. D'ailleurs, quand on enregistre la musique, on n'arrive jamais à enregistrer plus que 50% de la musique. Parce qu'il y a la force du moment. Ça, j'y tiens beaucoup. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus intéressé par l'enregistrement de ma musique. Et des fois, pour être vraiment prêt, je ne veux pas laisser de traces. C'est-à-dire, ouais, ceux qui sont là, à ce moment-là, avec leurs émotions, ceux qui sont présents.
Oui, mais du coup, comment vous, si vous ne l'écrivez pas et si vous ne l'enregistrez pas, vous la transmettez de quelle manière ?
En la jouant.
Que en la jouant ?
Ben oui, mais on a passé quand même 50 000 ans à la jouer de cette manière-là.
Ouais, mais on a perdu des choses, peut-être.
Mais il y a que ce n'est que depuis 50 ans, en fait, où on l'enregistre, depuis 100 ans, qu'on l'enregistre et qu'il y a les autres, en fait, en Chine, qui l'écoutent. Hein. Or qu'on perd la force du moment, on perd énormément de choses, hein, on ne se rend pas compte. Hein. Moi, je sais la force de la musique vivante, en fait, qui est jouée sur scène directement avec des gens qui sont là, parce qu'on fait de la musique avec l'émotion de tout le monde, hein, je veux dire. Mmh. Les spectateurs, ils font partie entière, en fait. C'est nos partenaires quand on joue. Moi, je suis très sensible, en fait, à une salle. Et je sais d'avance si on va faire quelque chose de bien ensemble ou pas. Et des fois, je suis accroché à deux ou trois oreilles qui m'écoutent tentativement. Et c'est mes vrais partenaires sur scène. Quoi.
Donc, l'enregistrement, vous disiez, c'est perd 50% de ce qui se passe.
Oui, enfin, bon, ouais, beaucoup.
Moi, la moitié, beaucoup. Voilà.
Voilà, l'écriture encore plus. Mais bien sûr. Mais Ahmad Sayyad, qui est un écrivain par excellence, il disait ça hier, ici même. Il disait, mais pour la musique contemporaine, en fait, européenne, où l'écriture est faite pour ça, on n'arrive pas à écrire plus que le quart. Alors, pour parler d'une musique ancienne, orientale ou autre, qui vient de l'autre, l'écriture, elle n'est pas adaptée du tout. On écrit de droite à gauche, à l'envers. C'est pas possible. Je veux dire, entre autres. Ouais. Parce que on est obligé d'écrire les paroles dans un sens et la musique dans un autre sens. Mais donc, c'est ridicule. En plus, dans tous les micro-intervalles, etc., tout ça, si on veut écrire tout ça, c'est injouable, la musique. Donc, moi, je suis quelqu'un qui écrit de la musique, mais j'ai essayé de faire des exercices d'écriture, mais jusqu'au fond. Mais enfin, la page, elle ressemble à rien, à plus rien. Elle est noire, en fait. Elle est illisible. De toute façon, voilà. Il faut toujours inventer une manière d'écriture pour n'importe quel moment de musique. C'est-à-dire, on ne peut pas séparer le travail sur les outils du travail proprement artistique.
Et alors, qu'est-ce que vous faites comme travail, vous, justement, en termes de recherche, je ne sais pas, de
manière alors, de moi, j'ai passé des années, en fait, à faire des recherches sur les micro-intervalles. C'est pour comprendre pourquoi il y a cette note à se poser des questions qui sont vraiment bêtes. Les meilleures questions, c'est les questions les plus bêtes
possibles. Vous pouvez préciser la question pour que je mesure sa bêtise ?
Une, voilà.
Si j'arrive à mesurer sa bêtise.
Ben oui. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'une fausse note ?
Ouais.
Pourquoi il y a une note qui est fausse ? Pourquoi ? Alors, bon, on sait physiquement... Pour avancer dans la réponse, on sait physiquement que les notes et les couleurs, les fréquences musicaux et les couleurs, ils sont de même nature. C'est-à-dire, c'est des fréquences. Ouais. C'est de l'énergie dans le temps.
Okay.
La seule différence, c'est une différence d'échelle. C'est-à-dire, les couleurs, ça va très vite. Les sons, ça va beaucoup moins vite. C'est tout ce qu'il y a comme différence. Donc, nous avons deux appareils, nous, les êtres humains, pour capter les fréquences qui sont lentes, c'est l'oreille, et les fréquences qui sont très rapides, qui est l'œil. Alors, pourquoi il n'y a pas une fausse couleur ? Pourquoi il y a une fausse note et il n'y a pas de fausse couleur ? Pourquoi tout ce qui est entre le jaune, pourquoi tout ce qui est entre le jaune et le rouge est faux ? Enfin, en musique. Je veux dire, les dégradés, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les dégradés, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Et l'idée derrière, ça peut être ce que vous aviez esquissé tout à l'heure, de réhabiliter la fausse note ?
Ben oui, c'est de la rendre. De toute façon, on ne peut faire la beauté qu'avec l'erreur. C'est-à-dire, voilà, je ne sais pas
Excusez-moi, mais la fausse note, il y a aussi un autre problème, c'est que c'est laid, c'est dissonant.
Ah, bien sûr,
ça heurte.
Mais bien sûr, mais enfin, l'art, il est fait pour heurter. Il n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. Enfin, je veux dire, moi...
Ça y est, vous me réengueulez, hein, Fawaz
Bacar. Non, mais oui, mais enfin, c'est une manière de parler.
Je plaisante.
Non, mais c'est très passionnel, tout ça. C'est, effectivement, c'est beaucoup de souffrance, il y a derrière tout ça. Je veux dire, voilà. Comment dirais-je ? Pour revenir à cette idée de dissonance, c'est-à-dire l'art, il est là pour réveiller, pour poser des questions. Il y a une différence énorme entre un artiste et une star. Un artiste, c'est quelqu'un qui pose des questions. Une star, c'est quelqu'un qui apporte des réponses. Moi, je n'ai pas besoin des réponses. Les gens, ils sont rassurés par les réponses. Les gens adorent les totems, ils adorent les slogans, ils adorent les... parce que ça les rassure. Mais par contre, la bêtise, qui c'est qui va s'en occuper ? Je veux dire, et pour passer d'une question à une question plus fine, il faudra des gens qui ont de l'imaginaire, en fait, qui arrivent à déstabiliser tout ça et à se poser des questions gentiment. Parce que si on ne le fait pas, on va tomber dans la guerre. Parce que si on n'arrange pas en fait les deux positions par rapport à l'Occident, par exemple, ou notre position par rapport à l'argent d'aujourd'hui, ou notre position par rapport au temps aujourd'hui, ou notre position par rapport à l'islam d'aujourd'hui, on va avoir des islamistes qui vont apporter une réponse très bête et très rapide. Donc ces questions-là, on se les pose en fait en pensant et pas en faisant la guerre.
Merci Fawaz Bakar. Je vais vous demander pour la fin de cette émission de vous livrer un petit questionnaire rapide. Alors, petit questionnaire autour du texte. Donc, un texte que vous relisez sans cesse.
Tout ce que j'ai en tête d'anciens chants. Je les fais tourner tout le temps dans ma tête en les chantant pour les garder vivants.
Donc, j'allais vous poser la question de savoir des textes que vous connaissez par cœur, c'est essentiellement des chants ?
Ouh là là, il y a beaucoup, oui. Ouais. Ah oui, essentiellement des chants, à part le Coran, parce que... par culture, je suis un pratiquant non-croyant.
J'ai la question, comment est rangée votre bibliothèque, mais il est possible que vous n'ayez pas encore
beaucoup
de livres.
Je l'ai donné il y a 10 ans. C'est-à-dire, je garde. J'avais une bibliothèque, en fait, j'avais pratiquement tout ce qui a été écrit en arabe, en turc, en français, en anglais sur la musique arabe. Et j'ai décidé à un moment donné, après 2 déménagements, j'ai décidé de donner tout ça. Parce que j'en avais marre, en fait, de voir ce qu'ils ont écrit les autres. Bah, j'ai tout lu, de toute façon. Donc, il n'y a plus besoin de tout ça. Et je l'ai donné. Et j'ai fait des cartons, en fait, pour telle ou telle et telle personne. Et j'ai plus de bibliothèque. Bon, maintenant, je ne garde plus de livres.
Et c'est une manière de vous débarrasser d'un savoir aussi ?
Non, c'est de créer le vide nécessaire, en fait, pour l'imaginaire.
On revient à ça, quoi.
Ah oui, toujours.
On créer le vide.
Autant que vous voulez.
Est-ce que vous écrivez encore à la main ?
Oui, surtout.
Et pour tout ?
De plus en plus.
Ah ouais ? Pourquoi de plus en plus ?
Ah bah, j'étais très informatisé depuis très longtemps, c'est-à-dire l'outil de l'informatique qui permet énormément de choses. Mm-hmm. Enfin, j'étais informatisé depuis les années 80, en fait.
Hein. Ouais.
Le fait que l'informatique m'a permis de voir beaucoup plus précisément et d'entendre plus précisément, parce que l'informatique nous permet de zoomer pour voir et d'avoir des loupes, ce qui est une sorte de zoom, en fait, pour l'oreille, de répéter, etc., ça permet de voir plein de choses. Et après, je suis revenu maintenant à l'échelle normale, en fait, de la vue normale. Mais j'ai passé quand même 30 ans à zoomer sur les trucs pour comprendre que finalement, dans une note de musique, une seule note de musique, il y a toute la sonate qu'il faut, si on zoome bien. Par contre, on ne peut pas transporter ce qui marche sur une échelle ne marche pas sur une autre. Vous voyez ?
Oui, non, mais je vois très bien parce que ça,
mais par contre, ça fait comprendre plein de choses. Je vous donne une idée. C'est que... la musique, c'est quoi ? C'est l'art de jouer avec le temps sur plusieurs échelles. Donc, si on joue sur une échelle infime, c'est la note, c'est la vibration de 400 Hz, par exemple. Si ça vibre beaucoup moins à partir de 8 Hz, ça devient un rythme. Et si ça vibre, si c'est plus lent, c'est la forme. Et dans le même sens, en fait, une fête, Noël, c'est de la musique, parce que c'est répétitif tous les ans. Mais ça, c'est pas considéré que de la musique, mais c'est un plaisir musical pour moi.
Merci beaucoup, Fawaz Bakar.
Merci à vous. Hein.
Maintenant. Comme chaque jour, on ouvre une fenêtre à la lutte que mènent ici à Avignon et partout en France les intermittents précaires, intérimaires et chômeurs. Donc chaque jour, ils viennent nous lire un texte et un titre, aujourd'hui, de la violence et de la misère.
Il ne peut pas se douter, ni imaginer qu'il ne lui restera bientôt que la nudité et la froidure sur un matelas de fer ou d'inox. Et aussi, attaché à un doigt de pied, une étiquette avec son nom, un numéro. Qu'est-ce qu'on en sait ? Il se rappelait de ce qu'il ne reverra plus, parce que les vigiles l'ont débarrassé de voir, et d'entendre, et d'espérer aussi. L'espoir, qu'il aura tenu jusqu'à l'instant ultime, quand la vie s'en allait alors qu'ils pensaient encore. Ils vont arrêter de frapper. Je vais retrouver mon souffle. Ça ne peut pas finir ici, pas maintenant. Et pourtant, il ne pouvait plus respirer, ni sentir son corps, ni rien entendre, ni voir non plus. Et il espérait, malgré tout, quelque chose en lui répétant « La vie va tenir encore. Elle tient. Elle tient toujours, ça va aller. Ils vont cesser parce qu'ils vont comprendre que ma vie est trop petite dans mon corps. » Ces matins si longs à Montparnasse, où il n'avait pas la force d'aller se doucher ou se raser à la piscine municipale, et où je l'ai vu parfois, oui, c'est arrivé, s'asseoir dans la gare et regarder les gens en guettant le premier qui lui donnerait 20 centimes, rêvant qu'il ne le fasse pas, qu'elle ne le fasse pas, que personne ne songe à le faire basculer de ce côté-là de la folie humaine. Et en le voyant assis comme ça, c'est moi qui courais pour m'enfuir, alors qu'il n'attendait rien et ne demandait rien, redoutant tout, attendant quoi ? Puisque personne n'est venu lui demander s'il voulait de l'argent, de l'amour, un sandwich. Tous, ils ont baissé les yeux, parce qu'ils ont du travail qui les attend, et une pelouse à tondre ou des trains à prendre. Des enfants qu'il faut aller chercher à la sortie de l'école. Et aussi parce qu'ils espèrent échapper à leur propre misère. Et tous baissent les yeux ou les détournent pour conjurer la poisse qui se colle à d'autres, sur lesquelles glissent des tuiles, grosses comme le poing d'un vigile. Ma mort n'est pas l'événement le plus triste de ma vie. Ce qui est triste dans ma vie, c'est ce monde avec des vigiles et des gens qui s'ignorent dans des vies mortes comme cette pâleur. Ce n'est pas triste comme de perdre le goût du vin et de la bière, le goût de marcher des heures et des tas de choses que je ne ferai jamais, que je n'aurais jamais faites de toute façon, mais que j'aimais tellement savoir présente, là, à côté, au cas où, que le monde n'est pas fermé et qu'on peut l'ouvrir un peu, de temps à autre, pour le regarder de plus loin. Je te l'ai dit, toujours cette connerie d'espoir qui me fait croire que ça va s'arranger. Ça va aller. Qu'est-ce que tu en penses ? Ce que j'appelle oubli, Laurent Mauvignier, 2011. Demain, jeudi 24 juillet, est un jour de grève nationale. Des actions auront lieu partout en France. En Avignon, nous vous donnons rendez-vous pour un forum populaire autour de la question de la solidarité, de 14h à 18h, au Square Agricole Perdiguier.
Merci beaucoup de votre venue, Fawaz Baker. Le programme des cinq chants continue. Hein, voilà, c'est ici, à Avignon, et c'est au couvent, au cloître des Célestins.
Exact.
Le soir. Demain, à votre place, la mathématicienne Stella Barouk. On parlera donc du texte, mais du texte mathématique.
Oui.
Du texte chiffré, comment s'écrivent les mathématiques. C'était Des idées sous les platanes. Une émission préparée par Geneviève Méric à la technique. C'était Georges Thau, Jean-François Georges et Tanguy Le Corneau. Réalisation Véronique Lamindour, chargée de production Jean-Christophe Perrin. Dans quelques instants, vous retrouverez sur France Culture On ne parle pas la bouche pleine, Alain Kruger. Bon après-midi et bon après-midi à demain.
Merci.
Au revoir.